go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission préférée mensuelle, L'écho des jeunes. Cette émission du mois de juillet marque la dernière émission de la saison 2023-2024 de L'écho des jeunes.
L'équipe... Pas seulement.
Avec ses voix autour de la table.
Oui, oui,
tout
oui.
à fait. L'équipe est au complet ici. C'est la dernière fois que vous retrouverez cette équipe-là au complet.
On peut dire qu'on va avoir, à partir de la fin de cet enregistrement, une extinction de voix.
C'est mais un héritage. Un héritage.
Une grande émotion également.
Ouais, oui,
l'écho, Queen, là, quand même, hein.
L'écho de nos voix rebondira toujours dans le studio.
Très, très mal.
Tout à fait. Et puis bon, nous n'excluons pas le fait de revenir finalement l'année prochaine, continuer à proposer des petites chroniques. Comme à son habitude, l'équipe de l'écho des jeunes est mouvante, elle est changeante, elle est libre. Et c'est ça qui en fait toute sa richesse. Aujourd'hui...
Comme l'écho finalement qui bouge dans l'espace, qui change et qui est libre.
Je crois que tu as déjà fait la définition de l'écho dans l'autre, dans l'autre voilà. émission.
Aujourd'hui, un programme chargé, hein, puisque c'est la dernière émission, mais on ne faiblit pas, le travail est toujours au rendez-vous. Dans un premier temps, Antoine, tu vas nous parler de l'histoire du bac.
Du baccalauréat, et baccalauréat. Non pas de la BAC, la brigade anticriminalité, qui m'empêche tous les soirs de... Voilà.
Ni le petit bac qui voilà. finalement ce jeu
ouais, effectivement. Qui
ouais. à remplir des mots ouais. en fonction des lettres. Ensuite, Miloane, tu vas nous parler de l'IA, de sa conception,
encore.
De son...
C'est ça, on va reparler un peu d'IA, mais savoir comment ça fonctionne avec les mathématiques et tout, et pourquoi ça représente aujourd'hui un enjeu pour les États.
Tout à fait, un sujet d'avenir finalement, là on se projette. Hein.
Ah bah, c'est comme sûr qu'à la préhistoire, t'avais pas trop d'IA. Hein.
Et enfin, peut-être qu'à la préhistoire, il y avait déjà ça. Clément, tu vas nous parler de l'éthique dans les sports extrêmes.
Mais bah oui, parce que c'est une question qui... Comment dirais-je ? C'est un sujet qui est très important dans les familles quand des jeunes enfants peuvent se mettre à faire des sports extrêmes. Des parents peuvent être réticents, des parents peuvent pas faire attention à ce que font leurs enfants et on va du coup parler de tout ça.
Très bien, très bien. Et je conclurai l'émission par une histoire, une belle histoire, celle de cette fabuleuse émission, l'histoire de l'écho des jeunes.
Oh là là, tu vas nous mettre l'alarme.
J'ai déjà l'alarme à l'œil. Ça n'a même pas commencé que... Ah ouais.
Mais avant ça, et peut-être que certains auront aussi l'alarme à l'œil en t'entendant, Antoine, raconte-nous l'histoire du baccalauréat.
Ah oui, l'histoire du bac, eh bien, moi je vous dis bonjour, jeunes et grands, jeunes et vieux, petits et non, bon enfin, rien ne me sert de vous définir, et je le dis pour une dernière fois dans l'année, la jeunesse ce n'est pas un état physique, mais un état d'esprit. Alors, quand vous écoutez l'écho des jeunes, eh bien vous êtes forcément un jeune. Et peut-être êtes-vous trop jeune pour savoir dont je vais vous parler. Le bac. Baccalauréat. L'épreuve que l'on vise toute notre jeunesse. L'épreuve qu'on sacralise à l'école primaire avant de comprendre vite que le bac n'est pas aussi dur que l'on l'imagine. Passer le bac, ça reste particulier. C'est sûrement moins savoureux qu'avant, car maintenant nous y allons pour beaucoup, avec la certitude de l'avoir. Mais quand même, on pense à tous ceux qui ont passé le bac avant. Passer le bac, c'est participer à une histoire. Mais à laquelle ? C'est ce que nous allons nous demander aujourd'hui. Depuis quand passons-nous le bac et à quoi ça ressemblait avant ? Auditeurs jeunes, résidant dans d'anciens corps, vous le savez peut-être, mais ne dites rien car certaines choses risquent de surprendre les plus jeunes. Baccalauréat. Étymologiquement, ça vient du latin et ça veut dire la couronne de laurier. C'est pour cela qu'elle apparaît sur votre diplôme, si jamais vous avez le baccalauréat. Et bien sûr, on souhaite aux 728 164 candidats en 2024, toutes filières confondues, donc pro, techno et général, d'être couronnés de cette couronne symbolique. Mais la première édition du baccalauréat date, elle, de 1809. Évidemment, nous sommes sous le Premier Empire et Napoléon veut mettre en place un diplôme permettant d'accéder aux facultés de droit, de théologie et de médecine. Alors, j'ose espérer qu'ils ont trouvé un arrangement entre-temps, car ils ont dû manquer d'avocats et de médecins pendant longtemps. Pourquoi je dis ça ? Simplement car en 1809, pour la première édition du bac, qui s'obtient alors par un entretien oral, seulement 39 personnes s'y présentent. On peut alors dire que Napoléon a fait des réformes de l'éducation moins populaires et savoureuses que Jean-Michel Blanquer. Voilà déjà un argument pour dire à papy que le bac n'était pas plus dur avant. Le bac se corse lorsque le petit Corse est alors mort à Sainte-Hélène et que son frère Léon lui a trouvé le... Bon bref, on connaissait la chanson de toute façon. Et en 1830, la première épreuve écrite est introduite avant de devenir obligatoire en 1840. Je cite ici une citation de Marie-Odile Merniac, auteure de « L'histoire du baccalauréat » qui est rapportée par Radio France Je cite. Au milieu du 19e siècle, il y avait un peu plus de 100 000 élèves qui arrivaient en terminale et seulement 4600 qui s'amusaient à passer le baccalauréat. Alors, à cette époque, le baccalauréat n'est réservé qu'aux hommes. C'est que les hommes qui peuvent passer le baccalauréat. Et alors 1881-1882, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tous les jeunes autour de la table savent à quoi ça correspond, parce que cette date, elle était à apprendre pour le bac de spécialité histoire, pardon, que nous avons tous passé.
Également SES, enfin bref.
Ah oui? Ah oui, elle était aussi à apprendre?
Tout à fait,
Et donc qu'est-ce qui s'est passé en 80?
Je ne l'ai même pas vue dans ma leçon d'histoire, pour tout.
C'est pas les lois Jules Ferry?
C'est ça, la loi Ferry, exactement.
Donc,
c'est
rien à voir avec le train, par ailleurs, ou le... Tout transport en commun, j'ai envie de dire.
Le ferry, c'est le bateau.
C'est le bateau, le ferry.
Voilà, c'est ça.
Heureusement qu'il n'y avait pas une épreuve de vocabulaire au bac.
Donc
la loi Ferry rend l'école laïque et obligatoire pour tous. Cette loi met fin aux épreuves de latin et elle les remplace par les épreuves de français.
Non, mais je le savais. Hein.
Qui sont, comme aujourd'hui, des épreuves anticipées. Alors, le bac gagne légèrement en obtention. On passe de 7000 bacheliers en 1890 à 37 000 en 1926.
Ah oui?
En 1927, enfin, les femmes obtiennent le droit de passer le même baccalauréat que les hommes. Et alors, on va rentrer dans le bac qu'on connaît actuellement. Enfin, on passe à un bac à peu près comparable avec celui d'aujourd'hui. Donc là, papy pourra vous dire que c'était plus dur avant.
Mais juste pour rebondir, c'est assez étrange qu'avant, les femmes ne pouvaient pas passer le même bac que les hommes, parce que la loi Fallou de 1850, qui impose l'école, enfin la même école, le même système éducatif pour les filles et les garçons... Eh bien, il n'impose pas le même bac, c'est assez étrange quand même.
Mais de toute façon, la loi Ferry, l'école était de toute façon l'école de filles et l'école de garçons, et les apprentissages étaient différenciés. C'est-à-dire que quand on était une fille, on apprenait la couture. C'est Colette qui le raconte dans Claudine à l'école que je vous invite à ne pas mettre entre les mains d'enfants, étant donné que c'est un livre un peu... En fait, c'est un livre pour adultes. Et en fait, les femmes faisaient de la couture et les hommes plus des travaux manuels, donc maçonnerie déjà. En fait, il s'agissait d'introduire les enfants à la vie de famille. Mais du coup, effectivement, c'est juste ça, Clément. Donc c'est en 1927 que les femmes peuvent passer le même bac. Et pourquoi enfin on passe un bac comparable? Parce qu'on a une réforme du bac pour deux raisons. Il y a l'explosion démographique liée au baby-boom et l'obligation d'être scolarisé jusqu'à 16 ans. Je cite encore Radio France. En 1960, il y a 800 000 enfants par tranche d'âge entrant en 6e contre 400 000 auparavant. La suppression du primaire supérieur au profit du collège unique, ainsi que la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, va faire exploser le nombre de bacheliers. De 32 000 bacheliers en 1960, on passe à 237 000 en 1970. Donc en 10 ans, on a gagné 200 000 bacheliers.
Pas mal.
Alors à cette période, il y a une nouvelle réforme du bac, celle qui concerne généralement celui que nos parents ont passé. Il s'agit de bac A, B, C, D. Et on s'arrête là. Et après, il y a l'autre réforme du bac qui a changé en L, littéraire, ES, économique, sociale et S, scientifique. Et bien sûr, pensons aussi à toutes les séries technologiques qui ont été créées et qui ont par contre la changé de nom 1000 fois, donc je ne vais pas vous faire toutes les listes.
Oh.
C'est pas, comme dirait Antoine, c'est pas un camoulox. Voilà, Antoine qui a l'habitude de dire ça en dehors de tes missions. Alors, aujourd'hui, le bac a encore changé avec la réforme Blanquer. Et il consiste désormais à choisir ses spécialités. Désormais, parlons de chiffres. Et si je vous dis que l'objectif de 80% d'élèves bacheliers par génération défini dans les années 80 vient juste d'être atteint? En effet, les médias déforment les chiffres. Le taux de bacheliers par génération a stagné des années 90 à 2010 autour de 60%. On parle trop souvent de pourcentage d'obtention en fonction du nombre d'inscrits, mais pas en fonction du nombre de jeunes ayant l'âge de passer le bac. Et ça change beaucoup pour la société que l'on va construire, forcément. Ce n'est qu'en 2018 qu'on a atteint les 80% de bacheliers pour une classe d'âge. Ce chiffre comprenant bien sûr les bacs pro, généraux et professionnels. En revanche, le bac général a perdu de sa valeur, passant de 63,9% d'acquisition en 1980 à 90,8% en 2023. Et ce qui a perdu encore plus de valeur, c'est la mention. En 2022, 69,1% des bacheliers ont eu une mention, des bacheliers généraux. Pour cette même année, on compte 14,3% de mention très bien contre 0,8% de mention très bien à l'échelle nationale pour le bac général en 1990. Ce n'est donc pas un mensonge, le bac général était plus dur avant, il y avait bien, comme le dit mon grand-père, une ou deux mentions très bien par lycée. Cette dévalorisation du bac entraîne forcément beaucoup d'échecs dans le supérieur. Enfin, il ne me reste plus qu'à nous souhaiter d'avoir le bac, à tous, autour de la table, avec mention, et surtout, le plus important c'est quoi? C'est de passer un bon été en fait. Voilà.
Tout à fait.
Voilà. Et pour terminer, on va s'écouter Organic Rust de Alpha Mist et on revient juste après ça.
Serious face, cause it's really a race. Trying to stabilize all my health deteriorates. My fever leaves me in delirious state. Now I'm grand weary of fakes. Here to replace, they cheer me away. Until they hear a mistake. I don't wanna lose my drive, so I'm steering away. Plus I got a call saying that a period's late. So I'm opening my calendar and clearing the dates. It's fate, I'm just a battler. Too black to be tattered up. A hunter and gatherer. Lunge if you're bad enough. When thrown downstairs, I clung to the banister. I used to have it rough, saw my plan erupt. Now I'm on the same plane, 3 months of Soul Calibur. I miss brekkie, need lunch for the stamina. Young and dumb like a man in love. Meant to vote, do the ballot, but I'd rather see the planet crushed, organic rust. Can it just? All turn to organic rust. Be a fan of your kind, but you focus on the gram and the size. All your followers are tapping the light, waiting for the chance to be the man you're beside. All this surface talk while I'm knackered inside. I'd rather burn them all like I'm Anakin style. All these planets collide, trying to capitalize. It's the furthest I've ever been, but I'm lagging behind. At the front of the queue for the back of the line, with the devil's idle hands and the passion of Christ. Trying to plot a map in my mind while you push the panic button. I'm pushing 29, some people are pushing daisies. I could die anytime behind enemy lines. I buy a friendly fire. Why does everything we hold close damage us? I'm trusting young and dumb like I had a buzz. When it all gives way and I've had enough, I got a few words for the man above. When I'm organic rust, trust. Can it just? Turn to organic rust.
De retour sur Bac FM 106.1, nous venons d'écouter Alpha Mist. Vous écoutez bien l'écho des jeunes, votre émission mensuelle pour la dernière de l'année, émission de juillet. Et désormais, c'est au tour de Miloan de nous faire sa chronique sur l'intelligence artificielle. Mais elle, eh bien, elle va nous la faire avec sa vraie intelligence, intelligence pure. Je te laisse commencer, Miloël.
Merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors oui, de retour un petit peu sur le monde du numérique, l'intelligence artificielle, tout ça, parce que finalement, on peut pas dire que c'est pas omniprésent dans notre société, mais je pense que c'est important d'en saisir les différents enjeux, mais aussi de comprendre comment concrètement ça fonctionne de façon assez grossière.
En tant que programme, je n'ai pas de sensation ou d'émotion, mais je suis prêt à aider. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui ?
Donc, pour saisir un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle, en général, on désigne ça comme en fait, un concept selon lequel, en gros, ça va être la capacité d'un ordinateur ou d'un robot contrôlé par un ordinateur. Donc, vous avez saisi la suite, tout ce qui est lié avec donc, les robots, les ordinateurs, etc. Qui, en fait, ont la capacité de reproduire des capacités purement humaines. Donc là, ça va être la capacité à raisonner, la capacité à apprendre de ses expériences, etc.
Mais aussi la capacité physique, par exemple. Le bras articulé est une intelligence artificielle.
Ouais, c'est ça. On a... Oui, parce qu'en fait, on a par exemple... Ça dépend, mais selon certains robots, il y en a qui vont avoir plus ou moins de l'intelligence artificielle. Mais c'est pas encore quelque chose qui est vraiment hyper répandu parmi toute la robotique. Mais donc, pour mieux appréhender l'intelligence artificielle, il faut plus la comprendre profondément plutôt qu'en fait ce soit une discipline ou un outil comme on a l'habitude d'en entendre parler. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux principes fondamentaux dans l'intelligence artificielle. Tout d'abord, donc, on a le machine learning, donc, c'est-à-dire l'apprentissage automatique donc, des différentes machines, et c'est un point sur lequel on reviendra. Et également le deep learning, donc l'apprentissage profond. Et en fait, ces deux principes, ils vont utiliser vraiment un panel phénoménal de mathématiques. Et c'est des mathématiques qu'on n'a même pas forcément vues au lycée. Et c'est tellement des mathématiques...
Ça m'étonnerait même.
Oui, non, vraiment. Mais c'est des mathématiques qui sont tellement poussées que c'est vraiment incroyable. Et c'est pourquoi aussi, un des enjeux majeurs de l'intelligence artificielle, c'est la notion de découverte, d'innovation et de recherche. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de pays qui investissent avec un très gros budget dans ce domaine. Et donc, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'intelligence artificielle, il faut savoir... que vous devez là tout de suite imaginer votre cerveau avec votre réseau de neurones. Vous avez l'image ? Super.
Regardez quand même la route.
Ouais, oui, regardez la route quand même.
Puis remettez votre boîte crânienne.
Ce sera plus utile comme ça. Donc, vous devez imaginer l'intelligence artificielle comme un réseau de neurones avec toutes les connexions. Il faut savoir que on va prendre un neurone A. Le neurone A, il va recevoir une valeur, par exemple 0,3. Et il va être connecté à un deuxième neurone, le neurone B, avec donc une branche entre les deux neurones. Sauf que cette branche, elle peut avoir un poids. Et ce poids, grosso modo, c'est juste, ça va en fait juste dire à quel point il y a des informations qui vont passer d'un neurone à l'autre. Et donc ce poids, c'est des coefficients mathématiques qui peuvent être ajustés. Et donc... ça veut dire que les informations elles vont circuler d'un neurone à l'autre à travers un poids. Et donc si le poids il est plus ou moins important, la valeur du neurone A au neurone B va changer. C'est bon ? J'ai toujours tout le monde autour de la table. J'espère que les auditeurs
aussi.
Moi
je suis là.
Je vais en place.
Parfait. Et donc il faut savoir aussi que les neurones, ils n'ont pas envie de ne rien faire globalement. Ils peuvent aussi faire changer les valeurs en ici ajoutant des fonctions mathématiques. Donc les fonctions mathématiques qu'on n'a vraiment pas vues au lycée. Donc il y a les fonctions ReLU, il y a la fonction TanH aussi. Et on a la fonction...
Tangente, tu veux dire ?
Non, TanH.
Ouais. Moi c'est ma préférée perso, celle-là.
Ouais, t'aimes bien ? Moi aussi, c'est pas mal.
Elles font un peu penser aux courbes de Brigitte Bardot.
Oula.
Passons pour ce petit détail. Donc par exemple, cas de figure très simple, si vous avez demandé à une intelligence artificielle générative de vous créer une image de chien et qu'à la fin vous lui sortez une image de chat, c'est parce que elle a pas eu toute elle a en fait fait des ajustements dans ses quotients qui sont pas forcément corrects. Et donc du coup, faut entraîner la machine parce que plus vous allez l'entraîner comme un sportif, plus vous allez avoir des meilleures performances. Et donc ça va s'ajuster tout seul avec des calculs mathématiques différents. Donc voilà, ça c'est un peu grosso modo comment fonctionne l'intelligence artificielle de façon très grossière. Mais si vous voulez plus en savoir davantage, vous pouvez regarder des vidéos YouTube qui sont vraiment bien faites.
Moi j'attends la chaîne de Miloan.
Ah ouais,
ouais. Ah oui, la chaîne de vulgarisation, ouais. J'attends.
De vulgarisation de l'intelligence artificielle.
Milo tuto.
Mais c'est aussi l'intelligence artificielle s'améliore par elle-même. C'est peut-être le côté le plus intelligent de l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ça.
Par rapport à Brigitte Bardot, par exemple.
Bah après, tu
fais ce que tu veux avec l'intelligence artificielle, Antoine.
Ah, contrairement à Brigitte Bardot.
Alors, donc, maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnait l'intelligence artificielle avec les mathématiques, etc., on va voir pourquoi c'est aujourd'hui hyper important pour les États, à différentes échelles, l'échelle internationale, s'affirmer, tout ça, l'échelle nationale aussi, pour pouvoir gérer ses propres besoins, et encore plus à l'échelle locale. Donc on va prendre pour ça l'État français, qui utilise mine de rien beaucoup l'intelligence artificielle et qui s'investit énormément en fait dans ce domaine. Donc tout d'abord, on va voir que l'État français utilise l'intelligence artificielle pour s'imposer par rapport à d'autres États. Donc on parle ici de puissance, mais ça c'est juste pour dire quand un État a beaucoup de moyens pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, on peut voir que la politique française va d'abord suivre des politiques européennes. Et donc là, on va penser à la RGPD, la réglementation pour la protection des données. On a aussi le AI Act qui est passé en décembre dernier, qui est la toute première juridiction à l'échelle presque internationale pour l'intelligence artificielle. Et du coup, ça permet aussi d'être un exemple en fait pour les autres États. Donc par exemple, les États-Unis ou encore la Chine. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, la France suit ce texte, et elle met aussi en place des politiques intérieures à l'échelle nationale qui sont assez importantes, et donc ça va lui permettre de développer différents projets comme France 30 par exemple. Aussi dans le domaine économique, on peut voir que la France elle va s'investir et s'affirmer dans ce domaine, avec notamment le salon de la tech, VivaTech 2024, qui a eu lieu à Paris au mois de mai dernier, et qui recueille en fait des investisseurs, des personnalités publiques, le plus connu Elon Musk par exemple.
Oui, qui a été accueilli en grande pompe, comme on dit, par Monsieur Macron.
Oui, exactement. Et en fait, c'est vraiment des personnes qui permettent de faire resplendir, si je puis dire, le fleuron français de l'intelligence artificielle. Donc là, on peut penser à Mistral AI par exemple, ou encore H pour Holistic AI. Et finalement, on voit aussi qu'à l'échelle un peu plus territoriale, on a par exemple l'agglomération de Nevers qui va utiliser l'intelligence artificielle et qui a signé d'ailleurs un accord en fait avec l'entreprise Lacroix pour faire des économies sur la gestion de l'eau et donc éviter le gaspillage de cette ressource grâce à l'intelligence artificielle.
Oh là là, la pointe de la technologie, cette bourgade.
Voilà, tout à fait, au plus près de chez nous.
Il y a eu le salon aussi, salon de la tech à Nevers. Bon, c'est pas l'intelligence artificielle, mais il y a eu ça à Nevers aussi.
Ouais.
Il y a aussi les passages piétons place Carnot qui sont délicieusement connectés.
Et puis cet arbre connecté également.
Ah oui, qui est d'une beauté sublime.
Bah oui, pour les passages piétons et les calculs de l'eau, etc., l'intelligence artificielle, c'est le meilleur outil d'efficacité, mais pour le moment, parce que l'informatique quantique en matière de calcul pour l'économie de l'eau, les calculs pour coordonner tous les feux de signalisation, c'est le top du top.
Ouais, mais après, je sais pas si. Faudrait peut-être que je me renseigne, mais peut-être que l'intelligence artificielle, elle utilise de l'informatique quantique aussi.
Oui, parce qu'en fait, c'est aussi ça la difficulté. C'est que déjà, l'informatique quantique, en fait, pour ceux qui ne se rendent pas compte, l'informatique quantique, c'est la capacité, par exemple, d'un ordinateur quantique de tester toutes les formules de code de votre coffre-fort d'un seul coup. Et donc, l'intelligence artificielle essaie d'utiliser l'informatique quantique, mais ça reste quelque chose d'excessivement compliqué, parce que l'informatique quantique, en fait, il n'y a aucun ordinateur quantique qui est déjà terminé, finalisé et fonctionnel. Si en plus il faut la doubler à une technologie qui n'est pas récente non plus, mais qui est encore en développement, c'est encore relativement complexe.
Ouais.
Et chers auditeurs, si vous êtes intéressés par l'informatique quantique, on vous renvoie à nos anciennes émissions dans laquelle Clément
Il me semble que c'était la troisième chronique, celle de décembre, où je parlais d'informatique quantique. J'expliquais comment ça fonctionnait.
C'est très possible. Je crois qu'on avait pas mal de trucs sur le numérique.
Oui,
il y avait
beaucoup de chroniques à propos du numérique. Vous allez voir, c'est super ludique. On comprend facilement.
Ouais, c'est lui qui l'a
fait. En fait, on va.
Non, mais je parle des chroniques des œuvres, parce qu'il n'y avait pas que moi qui avais parlé d'informatique.
Je crois que j'avais fait sur le Green IT, il me semble.
Oui,
c'est ça.
Bon voilà, on vous invite à écouter nos anciennes émissions, si jamais on vous manque, voilà, ça vous fera
Oui. Là vous avez un beau fleuron là.
Ouais. Sur la route des vacances, écoutez Écho des Jeunes.
Très bonne idée.
Comme ça vous êtes sûr que vos enfants vont s'endormir, vous serez en paix pendant tout le voyage.
Surtout pendant la chronique de Milohan.
En plus. Enfin bon, retour à nos moutons. Pourquoi l'intelligence artificielle c'est super important pour les États? Bah, du côté de pouvoir également influencer les autres États, on voit que il y a vraiment l'aspect de prestige autour de l'intelligence artificielle, donc avec les avancées technologiques. Et en France, dites-vous qu'on a 80 laboratoires de recherche ainsi que des écoles spécialisées en intelligence artificielle. Donc j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur le IA Institute, qui est, donc elle a plusieurs campus en France, il me semble 8, et dont un à Paris La Défense, et travaille vraiment à former des experts dans les métiers de l'intelligence artificielle. Puis même on a d'autres écoles aujourd'hui, donc des écoles de commerce par exemple, ou des écoles de sciences politiques, on pense d'ailleurs à Sciences Po Paris, petit clin d'œil, qui ouais, se développe aussi dans l'intelligence artificielle et travaille dessus, mais sur divers aspects. Et donc on peut voir que l'intelligence artificielle, elle est aussi hyper importante pour la diplomatie française, parce que on a vraiment, quand on regarde l'organisation du ministère de l'Europe et des Affaires intérieures, une branche spécifique à la diplomatie numérique qui est super poussée. Donc voilà, c'était tout pour à peu près les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais peut-être que l'année prochaine, il sera encore différent, on verra. On vous recontactera pardon, d'ici là. Et donc, moi, je vais vous laisser avec une musique qui fait penser à l'été et qui met dans des bonnes vibes. Donc, je vais vous laisser avec Terminator de King Promise.
Point in life, if you understand me or not, misunderstand me or not, me, I'm okay, I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want, me, I'm okay, I'm okay. Cause who are you to judge me like say you be holy past? I didn't love my life, get my peace of mind, better try survive. That's my party, nobody holy back. And my happiness comes first. I never come life to stress, yeah. Nah, ooh, I be like Terminator. I the deliver, I pass the doctor. Nah, ooh, I be like Terminator. I the deliver, I pass the doctor. Nah, ooh, I be like Terminator.
I don't need nobody motivation. Now my happiness consign me. Happiness consign me. Now you consign me. You don't pay. We are no one they could be paid. So right now. Now my happiness consign me. Happiness consign me. Now you consign me. So don't come tell me something I know. You want to they want me for dead. Don't let nobody play with your confidence. Your confidence. Oh, this era, sera, what should be, we be. You want to do what me for dear. Don't let nobody play with your confidence. Your confidence. Oh, who are you to judge me like say you be holy past? I didn't love my life, get my peace of mind, better try survive. We all be seen as my party, nobody holy past. And my happiness comes first, I'll never come life to stress, yeah. I'm
retour sur Bac FM. Donc après ma chronique sur l'intelligence artificielle et tout le tralala du numérique, on va laisser Clément avec sa petite chronique. Clément, vas-y, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, l'éthique dans les sports extrêmes. Bonjour à tous, il y a quelques émissions de cela, j'ai pu vous présenter Red Bull. Et nous avions abordé la place majeure qu'occupe la boisson dans les sports extrêmes. Ainsi, certains auditeurs se sont sûrement dit, pendant que j'abordais diverses compétitions ou exploits, mais on donne vraiment la possibilité à des gens de s'envoyer au casse-pipe, les encourageant et en commercialisant leur image. Bon, même si cela reste un peu plus compliqué que ça, aujourd'hui nous parlerons des dilemmes éthiques qui entourent les sports extrêmes. Tout d'abord, rappelons que les sports extrêmes sont des activités physiques caractérisées par leur nature à haut risque et qui sont souvent pratiquées dans des environnements imprévisibles et dangereux. De ce fait, le premier grand dilemme éthique des sports extrêmes, c'est la prise de risque. En effet, jusqu'où un pilote, un traceur dira-t-on par exemple dans les sports de parcours, est prêt à monter le curseur du risque ? Jusqu'où est-il socialement acceptable d'élever ce curseur ? Parce qu'on pourrait se dire que de toute manière, les pratiquants de ces sports vont élever continuellement le risque, peu importe les interdictions. Mais sachez que même au sein des pilotes, il existe un débat sur l'élévation continue de la prise de risque ou non. Et ce débat sur cette prise de risque s'illustre parfaitement dans le monde du VTT de descente, qui est d'ailleurs mon sport privilégié. Le 17 septembre 2023, l'illustre pilote britannique G. Atherton, connu pour ses prises de risque importantes et un crash massif qui lui coûta plus d'un an de convalescence et quasiment la mort, posta une vidéo. Dans cette vidéo, on le voit rouler sur un sentier très engagé le long du vide à toute allure. Or, lorsque certains ont salué l'exploit, d'autres ont trouvé que G. Atherton allait beaucoup trop loin, estimant qu'un pilote ayant déjà frôlé la mort pour une vidéo qui réitère le coup, donne une mauvaise image des sports extrêmes, l'image d'une catégorie de sport remplie que d'individus complètement inconscients. Ainsi, nous arrivons sur la question de la promotion des sports extrêmes. Ces débats ne tournent pas nécessairement autour des compétitions, puisque ces grandes compétitions, de ces grandes compétitions sont toujours ou presque occupées par des pilotes qui veulent profondément y participer, qui en rêvent depuis tout petit. Mais les débats tournent surtout autour des vidéos postées par les pilotes eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que le fonctionnement des sports extrêmes tourne autour du sponsoring et des réseaux sociaux. Les compétitions ne payent que le top 3 des pilotes, et pour des sommes complètement ridicules. Alors ce sont les réseaux sociaux et les contrats de sponsoring qui financent les adeptes professionnels des sports extrêmes. De ce fait, les pilotes doivent écouter les sponsors et répondre à leurs attentes quant au rythme de publication des vidéos et le nombre de vues. Alors, bon nombre de pilotes subissent d'une certaine manière la pression des sponsors et la pression de la surenchère sur les réseaux sociaux, se voyant constamment obligés d'élever la prise de risque pour répondre aux attentes des marques et ne pas tomber dans l'oubli des auditeurs. Par exemple, un pilote français de VTT, Alexis Righetti, a une pratique assez particulière, c'est-à-dire qu'il grimpe des sommets de haute montagne, passant parfois par l'escalade, pour ensuite descendre ses hauts sommets à vive allure. Il racontera après la fin de son contrat, avec la marque de vélo très connue Specialized, ou Specialized pour les petits anglophones, que cette dernière lui imposait d'augmenter continuellement le degré de risque dans ses ascensions s'il voulait rester sponsorisé, énonçant par la suite que plusieurs ascensions n'auraient sûrement jamais été faites de son plein gré, tant la difficulté était élevée.
Ouais, c'est un peu dramatique tout ça.
Eh bien oui, vu qu'ils n'ont pas leur gagne-pince, comme j'ai dit, c'est les sponsors. Ah oui. Là, surtout il y a quelques années de cela, où le bien-être, on va dire, du sportif n'était pas vraiment mis en avant, bien on fait ce que tu dis et sinon tu peux pas continuer.
Ça devient une pancarte marketing.
Exactement. Ouais, et puis on voit aussi avec les
hashtag MeToo VTT, non ?
Non, pas nécessairement. Puis même sur les réseaux sociaux, on est toujours à la recherche, vous savez, du contenu le plus waouh. Et les sports extrêmes, ça s'inscrit
carrément wow.
Tellement dans cette démarche, pour attirer, il faut faire de plus en plus gros, sinon on tombe dans l'ombre, quoi. Et donc, toujours dans les débats autour de la promotion des sports extrêmes, il y a beaucoup de critiques sur le caractère promotionnel du danger. C'est-à-dire que, pour faire simple, plus on a une pratique engagée, plus on est susceptible de se faire connaître et de le rester. De ce fait, de plus en plus de vidéos de sport extrême deviennent virales, touchant donc un public non averti, ce qui peut entraîner des jeunes individus à pratiquer ces sports sans conscience des dangers que cette pratique implique, les rendant donc dangereux pour eux et pour les autres. Que ce soit des gens qui testent des lignes de parcours en ville beaucoup trop dangereuses pour leur niveau, ou encore des novices du VTT qui, en station de montagne, portent des demi-casques comme en ville, ainsi que la moitié des protections et utilisant des vélos non adaptés, tout cela résulte d'une interprétation trompeuse des vidéos d'internet par ces pilotes en herbe. Mais il faut quand même notifier que, grâce au travail de prévention des pilotes, la fameuse mode chez les plus jeunes de rouler avec le moins de protection possible parce que ça fait davantage homme, est presque devenue, est presque abolie et même devenue complètement ridicule, dans le monde du vélo en tout cas. Enfin, un grand débat tourne autour de l'impact environnemental de la pratique des sports extrêmes. Évidemment, cela nécessite presque toujours des milieux naturels. Ainsi, plusieurs plages ont instauré une régulation massive des surfeurs afin de protéger les récifs coralliens, les espèces marines et lutter contre l'érosion côtière.
Le surf, c'est considéré comme un sport extrême ?
Oui, évidemment. Par exemple, c'est vrai que ça peut faire bizarre de
grésiller
à l'oreille.
Après, peut-être.
Non, même pas, parce que même sur une petite vague, on peut mourir, que ce soit par l'apnée, même peut-être par les requins. Et si vous regardez les vagues de Nazaré au Portugal, donc c'est la plus grande vague du monde, bien tout le monde n'est pas en mesure de surfer des vagues de 27 mètres.
Oui, mais je veux dire, quand on va faire du surf en Bretagne, pour en avoir déjà fait, c'est pas trop extrême, quoi.
Non, mais c'est comme tout, rouler une piste bleue de VTT, c'est pas trop extrême. Mais aller sur la piste noire et essayer de faire des figures sur les bosses, on est déjà sur un degré de difficulté qui est...
Est-ce que tu veux dire que chaque sport peut devenir extrême, finalement ?
Bah, je pense, en vrai, regarde la baby gym quand tu fais une roulade,
non,
ça va,
mais
quand
extrême,
tu...
Non,
je...
non, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une...
Tu mets des pins, des
épines sur le il y a le côté mental qui rentre en contre. C'est-à-dire que c'est pas l'aspect mental je stresse avant un match de foot. Non, c'est je vais faire quelque chose qui potentiellement met ma vie en danger, qui met littéralement ma vie en danger. Il y a ce caractère aussi de sentiment de liberté, qui par exemple n'y a pas dans les sports de combat. Dans les sports de combat, par exemple au MMA, on est dans la cage. Donc ce qui est demandé aux athlètes peut être considéré comme des sports extrêmes, mais il n'y a pas cet aspect... Comment dirais-je déjà, de nature, de liberté,
adrénaline.
L'adrénaline, exactement. Il y a nécessairement de l'adrénaline, mais ce n'est pas la même chose que les sports extrêmes. Les sports extrêmes aussi impliquent une certaine maîtrise du milieu dans lequel on se trouve. Que ce soit pour les trottinettes freestyle, les skateboards, ce soit la ville, donc le mobilier urbain, le skatepark. Pour le surf, c'est dominer la mer, les vagues. Pour le VTT, ce sera les champs de bosse ou même la montagne. Et puis même pour les motocross, ça peut être les grimpettes, comme on dit, ou encore les énormes champs de bosse. Et ça, c'est vraiment propre aux sports extrêmes comme le surf, le VTT, etc. Mmh. C'est pour ça qu'on peut le mettre dedans.
Ouais, je vois.
Du coup, je reviens à l'impact environnemental autour des pratiques du sport. Et je disais justement que plusieurs maires ont interdit, voire limité la quantité de surfeurs pour protéger le milieu. Comme exemple, on a la plage de Trestle en Californie, ou encore sur les plages de Byron Bay en Australie. Et puis, il y a aussi le cliff diving, pour les plus acharnés.
J'ai la référence.
Qui est un sport qui consiste à sauter dans l'eau depuis des falaises. Bien, ce sport aussi est excessivement régulé pour la préservation de la faune et de la flore et limiter l'érosion des falaises. Par exemple, le cliff est interdit dans les calanques de Marseille, mais aussi dans le mythique parc du Yesotomite en Californie. Maintenant, et en conclusion de cette chronique, laissez-moi endosser mon rôle de pratiquant et donner mon opinion si cela peut aider quelques parents, notamment sur les questions éthiques autour des sports extrêmes.
Alors là, c'est le moment Clément Supernanny.
Exactement. pas nécessairement.
Je crois que je visualise trop bien. Hein.
Premièrement, j'estime indispensable que les pilotes ne soient jamais limités dans leur prise de risque à partir du moment où ils sont profondément conscients de ce qu'ils font et qu'ils ne le font pas pour répondre aux attentes des sponsors et pour faire le plus de vues sur YouTube. Deuxièmement, j'estime indispensable que les pilotes ne soient plus critiqués lorsqu'ils diminuent l'engagement qu'ils mettent. Bon. Cela reste nécessairement difficile puisque les personnes qui font ce genre de critiques sont nécessairement des individus qui ne connaissent pas grand-chose au sport extrême et qui veulent juste voir du wow. Et enfin, j'estime indispensable que les pilotes ne soient plus tenus pour responsables des cabrioles de leur jeune public qui ne réfléchit pas avant d'agir. Même s'il y a des figures publiques des sports extrêmes qui ne font pas de prévention, elles restent excessivement minoritaires et cela reste aux parents que revient la tâche de sensibiliser leurs enfants au contenu qu'ils regardent. Donc c'est vraiment très très important. Il y a souvent ces cas-là, par exemple au skatepark, où il y a par exemple des personnes avancées qui vont faire des grosses lignes, donc des gros sauts, aller super vite. Et entre-temps, eh bien, il y a le petit ch'tomba, on dit en alsacien, le petit enfant qui passe au milieu et qui ne regarde pas. Et après, il y a souvent des parents, bah, il y a des collisions et il y a des parents qui disent « Mais vous ne regardez pas où est-ce que vous roulez, etc. » Bien non, monsieur ou madame, c'est à vous de faire attention à où est-ce que vous placez votre enfant, à quel moment.
De toute façon, je crois que les skateparks sont interdits par fréquentation au moins de 12 ans, il me semble.
Exactement.
Donc, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble. Et de toute façon, je veux dire, faire de la trottinette à trois roues... Ça peut se faire au parc Roger Salengro, ça peut se faire sur le parvis de la Maison de la Culture.
C'est ça, ou par exemple, même au point de vue du matériel inadapté, je le disais, dans les stations de haute montagne pour le VTT, lorsqu'on voit des vélos between,
ouais.
Bah, et c'est excessivement dangereux pour le pilote. Ou même, comme je le disais, il faut vraiment sensibiliser les enfants à ce qu'ils voient. Ils voient un individu qui fait du parcours, par exemple, l'individu le plus connu, vous ne connaissez pas de nom, mais vous avez forcément vu des vidéos, c'est Dom Tomato, qui est un traceur d'exception, peut-être le plus grand de tous les temps. Il voit littéralement un petit singe sauter d'immeuble en immeuble. On a envie de faire la même chose. Et quand on est plus jeune, on n'a pas nécessairement, on va dire, le recul nécessaire pour se rendre compte qu'en fait, c'est une vie et plusieurs fractures qu'il a dédiées, plusieurs os pour ce genre de choses.
Il m'arrive de regarder surtout des vidéos de cliff diving, donc de saut de falaise. Je me retrouve à bon, 5 mètres, c'est possible encore, mais à 6-7 mètres de l'eau, je saute pas, quoi. Donc
oui.
Ça ne me donne pas forcément.
Mais même rien que 5 mètres, quand c'est déjà relativement dangereux, surtout quand on est petit et dans les milieux naturels. Par exemple, piscine, ça va encore, mais. Ainsi, je terminerai en disant que c'est normal qu'une catégorie de sport aussi marginale et récente possède des défauts qui peuvent être diminués, voire supprimés. Mais rassurez-vous, cela s'améliore de jour en jour, ce qui est excessivement encourageant pour la suite. Je m'arrête ici en vous proposant d'écouter, sans doute, à mon avis, la meilleure chanson de tous les temps, Bohemian Rhapsody de Queen.
C'est l'heure de Bohemian Rhapsody, les amis ?
Génial, ouais !
Is this the real life ? Is this just fantasy ? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high, little law.
Anyway, the wind blows
doesn't really matter to me.
To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
De retour sur l'écho des jeunes pour la dernière chronique de cette émission. Chronique époustouflante, mais à la fois triste, quelque peu mélancolique, puisque c'est la toute dernière de cette ère, dira-t-on. Antoine, parle-nous de l'histoire mythique de l'écho des jeunes.
C'est un peu l'explosion de l'étoile, là. C'est la supernova qui va exploser là.
Nous vivons un moment solennel. Chers amis, chers camarades, chers collègues, chers auditeurs, chers publics, nous y voilà. Cette émission marque un tournant dans l'écho des jeunes.
Maman, je t'aime, pardon.
Une page qui se tourne et qui va écrire, j'en suis sûr, les plus belles lignes de Bac FM. Cela m'émeut autant que j'en suis fier. Fier d'avoir contribué à cette fabuleuse émission qui met un point d'honneur à la liberté, à l'humour, la curiosité, le partage et la passion. Alors que nous nous trouvons dans l'épilogue de ce chapitre, j'aimerais revenir avec vous sur les prémices de l'écho des jeunes, sa genèse, son évolution, ses transformations, jusqu'à arriver à aujourd'hui.
Tu vas mettre personnellement la nostalgie. Et puis les autres, peut-être que vous allez découvrir des trucs, notamment la fois où Antoine s'est mis torse nu dans le... Non, ça s'est jamais arrivé.
Je crois pas.
Non, ça s'est jamais arrivé, en fait.
Cette émission, c'est le croisement des échos de plusieurs histoires. Tout d'abord, celle de Virginie Charrière et Clémence Moreau. Elles travaillent toutes deux à la Fabrique Emploi et Territoire à Nevers et ont une émission de radio appelée Avenir Mode d'Emploi, dans laquelle on y parle de formation de secteur et surtout de belles aventures du monde professionnel qui se passent dans la Nièvre. Et puis plus les émissions passent, et plus elles se rendent compte que la Nièvre est un territoire dynamique qui fourmille de personnes motivées et qui croient en ce qu'elles font. Dans le secteur professionnel, mais pas seulement. Elles font alors la rencontre de Hippolyte Darbeau. Alors en terminale, un jeune créatif et motivé pour monter une émission de radio qui met en avant cette jeunesse et la Nièvre. Ainsi, Virginie, Clémence et Hippolyte enregistrent le premier numéro de l'Écho des Jeunes, diffusé le lundi 10 janvier 2022.
Bienvenue sur Bac FM 106.1. Nous sommes très contents de vous présenter une nouvelle émission qui s'appelle L'écho des jeunes.
Ce jour-là, ils ne sont pas seuls dans le studio puisque Virginie a recruté une connaissance de longue date, Antoine Charrière, son fils.
C'est toi du coup, hein, je précise pour le jour.
À qui elle a parlé de cette nouvelle émission et qui arrive au lycée cette année à Raoul Folreau. Ce jour-là, je ne faisais qu'une introduction au micro-trottoir d'Hippolyte, dont le sujet n'était rien d'autre que les élections présidentielles et le vote des jeunes, comme quoi tout est lié, puisque l'on finit dans les mêmes circonstances, ou presque. Dans le studio ce jour-là, il y a également une femme, la marraine de l'émission, Madame Geneviève Omessa, qui a également participé à la création de Bac FM, et ça, elle nous le raconte dans cette première émission.
Alors, j'ai accepté d'être marraine, mais non pas ni le père ni la mère de cette radio. Parce que celui qui a vraiment eu l'idée de cette radio, au départ, c'est un autre professeur qui s'appelle André Fourcade. Alors, moi, à cette époque-là, je ne m'intéressais pas beaucoup à la radio, mais quand j'en ai entendu parler, j'ai senti intuitivement que c'était certainement quelque chose de très utile pour les lycéens. Parce que quand on est en classe, on a des programmes. Alors que la radio, eh bien, c'est l'occasion de découvrir d'autres horizons. Et effectivement, les élèves qui ont fait de la radio ont choisi des sujets qu'ils voulaient aborder. Et moi, en tant que prof, je trouvais que c'était un excellent exercice pédagogique qui certainement aurait des résultats également positifs sur le plan scolaire.
Mais alors, de quoi elle parle cette émission ? Eh bien, de tout. L'objectif initial est de faire une émission mensuelle avec un thème principal pour chacune d'elles, dont va découler les chroniques, des interviews et autres micro-trottoirs et discussions auxquels tous les jeunes sont invités à prendre part. Et cet appel, accompagné d'un travail de terrain, va marquer pour la deuxième émission la venue d'un autre Antoine, qui, tout comme son homonyme, ne quittera plus l'équipe à partir de ce moment-là. D'autres jeunes feront des apparitions ponctuelles, je pense à Lina Guillet, Anna Boschko ou encore Fleur Bataille et Cléo.
Bah, Cléo qui est quand même resté longtemps.
Qui participera à plusieurs émissions.
Ouais, Cléo, il est resté très longtemps.
Tout à fait. L'équipe de l'écho des jeunes est mouvante, changeante, elle s'adapte, mais garde cette bonne humeur dans le studio et ce sérieux qui la caractérise tant. À la fin de la saison 2022, Hippolyte quitte le navire, étude oblige, mais reviendra de temps en temps. Clémence fera deux émissions et à la fin de la saison 2023, Virginie quitte l'équipe. Même si elle est toujours là dans nos cœurs. Ça y est, la machine est lancée et c'est aux jeunes de la manier. Mais avec tous ces départs de jeunes, il en reste deux, les Dupont et Dupont de Bac FM. Ce qui tombe bien, c'est qu'ils sont bien entourés et ils vont parler d'émission à deux amis, deux jeunes intéressants et intéressés, curieux et motivés, un certain Clément et une certaine Miloane. Tout comme l'équipe, la formule de l'émission est elle aussi revisitée, toujours mensuelle et diffusée la deuxième semaine de chaque mois, le lundi à 7h30 et le samedi à 12h30, mais fini le thème unique à chaque émission qui limitait parfois la créativité, maintenant chacun peut venir avec son sujet sous la forme qu'il le souhaite. Et ainsi, l'année passa. Quelques mois furent sautés à cause de Parcoursup, du bac et autres obligations d'avenir, l'équipe s'est donc stabilisée, avec tout de même l'intervention de Maëlie au mois d'avril, et maintenant, il faut voir l'avenir. Et oui, car vos joyeux lurons, votre bande de jeunes, vos loustiques qui vous ont fait frissonner de bonheur durant toutes ces heures vont devoir partir l'année prochaine à cause de ces satanées études. Signe peut-être que de jeunes, nous ne le sommes plus tellement. Et qu'il est temps de passer la main, de faire tourner la boutique dans l'esprit historique de cette émission. Les portes du studio sont ouvertes. C'est pourquoi vous pourrez retrouver l'année prochaine les 12 voix de au moins Soraya et Juliette sur ces ondes dans l'écho des jeunes. Je dis au moins car je vais lancer le même appel que ma maternelle. Si vous êtes intéressé pour participer à cette fabuleuse émission de manière ponctuelle ou régulière, je m'adresse aux jeunes mais aussi aux adultes qui pourraient avoir des personnes intéressées dans leur entourage. N'hésitez pas à venir à Bac FM. Toute l'équipe saura vous accueillir et vous accompagner ainsi que vous mettre en contact avec ceux et celles qui seront derrière les micros. Enfin, et pour conclure, j'aimerais parler d'une personne dont je n'ai pas fait mention et sans qui pourtant cette émission serait impossible. J'aimerais dire un grand merci à Laetitia, qui depuis le début et à chaque émission, nous confie les micros et enregistre derrière son poste, et qui monte également les émissions, les rendant plus digestes, et enlevant les divers blancs et autres ratés qui se concluent par « je peux la refaire ?» Des montages qui habillent et éclaircissent aussi les émissions par des incrustations audio, des musiques d'arrière-plan, des effets sonores. Mmh. Bref, merci pour ta confiance et ton travail qui fait de toi la grande architecte de l'écho des jeunes. Enfin, merci à vous, chers auditeurs, fidèles du direct ou du podcast, qui permettent à nos échos de résonner et trouver refuge. Merci à vous, merci à tous, merci à toutes, chers amis, chers camarades, chers collègues, qui ont écrit leur ligne dans l'histoire de l'écho des jeunes. L'aventure n'est pas finie, loin de là. Et l'écho des jeunes vous dit à l'année prochaine sur Bac FM 106.1.
Au revoir.
Au revoir.